Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré au procès des attentats de janvier 2015. À l'ordre du jour ce soir, que nous a raconté le procès des attentats dont le verdict a été rendu hier soir? À l'issue d'un procès, une vérité judiciaire doit apparaître et donc constituer une mise en récit des actes de ceux qui étaient sur le banc des accusés. Cette vérité est parfois partielle, elle peut être éclairante ou bien décevante dans d'autres occasions. Dans ce premier procès filmé du terrorisme en France, l'attente était à la hauteur de l'émotion qui nous avait collectivement saisis les 7, 8 et 9 janvier 2015. Historique, disait-on avant l'ouverture, mais ne confondait-on pas les événements eux-mêmes, Charlie, Montrouge, Hypercacher et leur géographie de mort, avec le procès? L'histoire a besoin de temps. Alors, au bout de 3 mois de séance et au lendemain du verdict, quel récit faire de ce qui s'est passé? Nous allons poser la question à nos 3 invités. François Bouc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dessinateur de BD en particulier et vous avez travaillé pendant toute la durée de ce procès pour Charlie Hebdo en compagnie de l'écrivain Yannick Hennel. Avec nous également Antoine Mégy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, maître de conférence à Rouen, et vous travaillez sur la place du droit dans la guerre contre le terrorisme. Et avec vous également, Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
Nous pourrions nous tutoyer puisque vous êtes dans la rédaction de France Culture, mais nous allons nous vouvoyer pendant toute cette durée d'émission puisque vous travaillez, donc vous avez suivi avec d'autres de Radio France et en particulier avec Charlotte Piret, vous avez suivi ce procès dans toute sa longueur pour France Culture.
L'émotion saisissante lors de la diffusion des images et vidéos de la salle de rédaction de Charlie Hebdo ce 7 janvier 2015, les récits glaçants ensuite des survivants de cet attentat, long silence de la dessinatrice Coco lorsqu'elle raconte les armes des frères Kouachi dans son dos, contrainte de taper le code d'entrée de la rédaction. Les larmes de Sigolène Vincent, épargnées de justesse par Chérif Kouachi, parce qu'on ne tue pas les femmes, lui dit-il. La douleur rentrée de Laurent Léger, qui cachait sous une table, a vu les corps tomber. On a presque ressenti la douleur physique ensuite, décrite à la barre par Simon Fieschi, le webmaster de 36 ans, qui lutte contre la paralysie, est venu raconter ce que fait une balle de Kalachnikov. On aperçut l'immense solitude de Rhys, directeur du journal, dont la vie sous protection permanente semble désormais si triste. On a entendu ce manque immense des proches de ceux qui sont tombés ce jour-là. Des témoignages aussi bouleversants que dignes, qui ont aussi profondément touché les accusés, ont-ils dit. Dans un moment d'une grande rareté devant une cour d'assises, ils se sont levés un à un hier pour dire leur émotion mais aussi saluer l'incroyable courage de ces victimes venues témoigner.
Un compte-rendu d'audience de votre collègue Charlotte Piret pour France Inter. C'était la séance du 7 septembre avec l'émotion, effectivement, et surtout les témoignages des victimes. Antoine Mégy, on peut se dire aussi que c'est, si on se retourne sur ces 3 mois qui paraissent déjà très longs, puisque entre-temps d'énormes événements sont intervenus, qui ont d'ailleurs perturbé en partie les séances du tribunal, eh bien, on peut se dire que la question des victimes et de la place qu'elles ont prise, dans cette mise en scène judiciaire est très importante, Antoine Mégy.
Effectivement, il y a eu dans ce procès, c'est ce qui en a constitué certainement l'une des problématiques phares, c'est la place des victimes au sens où ces victimes ont, pendant 4 semaines, construit, donné à voir leur récit, le récit des attentats qu'elles avaient subis. Et c'est vrai que dans ce contexte, des procès au long cours, 2 mois de prévu au départ, eh bien, on a une parole des victimes qui est très présente. À la fois, on a parlé par exemple de 2 procès, d'un premier procès pour les victimes et d'un deuxième sur l'enquête, ce qui a aussi des conséquences sur la manière dont s'agence le débat contradictoire entre la défense, les avocats généraux, la cour et bien sûr maintenant un grand nombre d'avocats des parties civiles, et c'est aussi une des questions que pose ce procès et que va poser le procès du 13 novembre.
Florence Turme, parmi les présupposés, pourrait-on dire, de ce procès, il y avait cette question: est-ce un procès pour l'histoire et comment le sera-t-il? Et puis justement, autre chose, on se disait: est-ce qu'il y aura plusieurs catégories de victimes? On imaginait que les victimes intellectuel de Charlie Hebdo serait traité différemment des autres victimes, de l'hypercacher, des policiers, de Frédéric Boisseau. Tout cela, est-ce que ça s'est produit tel que c'était prévu? Parce que c'est aussi ça un récit. Il y a ce qu'on prévoit et puis il y a ce qui va arriver pendant ce procès.
Eh bien non, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire et d'un point de vue journalistique. Quand on est dans une salle, quand on entend ces paroles-là, comme tout un chacun d'ailleurs, mais on a été saisi à chaque parole de victime, quelle qu'elle soit. Alors chacun avec la force de sa parole, chacun avec son récit, chacun avec sa souffrance, mais en fait, au fur et à mesure que se succédaient les victimes à la barre, et je pense que c'est suffisamment rare pour le préciser, le dire aujourd'hui, en fait, chacun apportait, non pas une pierre à l'édifice, mais apportait sa propre, vraiment sa propre histoire. Et il y a eu des paroles extrêmement forte de prononcer, je ne même pas les citer toutes. Il y avait parfois de l'humour. Il y avait, je me rappelle, Simon Fieschi disant ce qui m'embête le plus aujourd'hui. Donc il a vraiment une grande souffrance en lui parce que la balle l'a touché dans le dos, tout près de la colonne vertébrale. Et il disait ce qui m'ennuie le plus aujourd'hui, c'est ne pas pouvoir faire un doigt d'honneur. Voilà, donc il y a ces moments, il y a eu ces moments d'humour, mais il y a eu ces moments de grande souffrance, ces moments d'humanité aussi de certaines victimes vis-à-vis des accusés qui étaient dans le box. Et tout ça, en fait, ça a constitué une sorte de... C'est pas un puzzle, mais c'est comme quelque chose qui s'assemble, qui finit par s'agréger pour donner une dimension très très particulière. Et il n'y avait plus les victimes de Charlie, il n'y avait plus les victimes de l'hypercacher, il n'y avait plus les victimes qu'on aurait pu penser, les victimes oubliées entre guillemets comme Clarissa Jean-Philippe, dont le nom a vraiment résonné. La plaidoirie de son avocate a été quelque chose d'assez exceptionnel.
La policière de Montrouge,
aussi, comme on dit. La policière de Montrouge. Et donc il n'y a pas eu, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de victimes oubliées. Chacun a eu son temps de parole et chacun l'a exprimé. Mais avec effectivement des témoignages qu'on attendait plus que d'autres parce que c'était des figures connues, mais les témoignages des anonymes ont aussi pesé vraiment dans cette audience.
Alors François Bouc, vous aviez un poids très important sur les épaules, ça n'est pas rien. Vous êtes donc dessinateur de bande dessinée, on vous connaît en particulier pour le duo que vous formez avec l'écrivain Jérôme Charine et dont le dernier volume vient de sortir avec vous, donc qui s'intitule New York Cannibal aux éditions du Lombard. Mais vous avez un poids parce que Rhys, donc de Charlie Hebdo, vous avez dit avant ce procès, il faut que ce soit un monument. C'est un peu comme, dire c'est un procès pour l'histoire. Faut faire quelque chose de grand, d'une certaine façon. Et ça n'est pas si simple quand on a cette injonction de départ et qu'on travaille au quotidien dans une salle d'audience.
Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, j'ai pas l'habitude de couvrir les procès, ce qui fait que j'en
ai fait... Le seul que vous aviez fait, c'était le procès du Carlton à Lille avec Pascal Robert-Diard.
Oui, exactement, c'est ça, avec Pascal. Je me suis dit, mais comment je peux résoudre cette équation? Il me dit, il faut faire un monument. Et je me suis dit, bon, je vais faire une chose, je vais rien lire sur le procès en préalable. Pourtant, il y avait tous les dossiers, Rhys les avait sous la main. J'ai pas lu non plus les romans qu'ils ont fait, celui de Rhys ou celui de Lançon. J'ai rien voulu savoir. En me disant, je vais découvrir ça. Je vais découvrir ce que ça va donner. Et tout à l'heure, vous parliez de la vérité, hein, la recherche de la vérité, parce que je l'ai souvent entendu durant ce procès. Et en fait, je me suis dit, en cours de procès, je me suis dit, mais au fond, la vérité, c'est ce qui se passe là. En fait, on peut pas savoir ce qui s'est passé réellement entre tous ces gens. Mais la vérité, c'était de découvrir le mensonge, la dissimulation.
Et vous avez beaucoup insisté dans vos dessins, en particulier sur cette question du mensonge. Quand vous avez produit au jour le jour pour Charlie Hebdo, il y avait beaucoup de dessins qui insistent sur le caractère de menteur de ceux qui viennent, en particulier les accusés qui viennent dire qu'ils n'y sont pour rien, etc., etc.
Bien sûr, il y avait une duplicité qui était permanente, en tout cas pour les accusés. Mais il y avait aussi la vérité de ce que vient de dire votre collègue, la vérité de ce qui se disait par les parties civiles, par les avocats, des choses extraordinaires qui ont été dites. Et donc C'est ça que j'ai retenu en premier, disons, de ce procès.
Antoine Mégy, ça a quelle particularité un procès pour terrorisme, outre les qualificatifs, et en particulier la qualification d'association de malfaiteurs terroristes, qui est nouvelle, qui est donc une qualification particulière, et qui d'ailleurs a permis le verdict que nous avons connu hier, avec des distinctions entre tel ou tel des accusés. Quelle est la particularité, justement, du récit qui se construit dans un procès de ce type ?
La particularité de ce récit, elle tient peut-être déjà au contexte, en fait, à la scène elle-même d'audience. Vous parliez de l'association de malfaiteurs terroristes, ça c'est l'infraction, c'est le langage du droit qui vient finalement essayer de construire à la fois l'accusation puis les condamnations. Et dans le cas de ce récit de l'association de malfaiteurs terroristes, effectivement le verdict a construit une nouvelle jurisprudence. Alors je dirais pas que c'est une infraction nouvelle, c'est une infraction qui a une histoire qui remonte aux années 90. Le contexte, il est spécifique, on est dans une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jury populaire, comme dans les cours d'assises de droit commun, on a des magistrats professionnels. Ce contexte, il est aussi spécifique parce qu'on a des avocats qui se sont spécialisés par la force des choses depuis 4-5 ans, et ça a été
94 avocats en tout, c'est ça par...
Exactement, et dont beaucoup avaient déjà eu affaire à ces dossiers dans des contextes différents, mais depuis 5 ans et depuis vraiment cette histoire d'une augmentation sans précédent du contentieux de la lutte contre le terrorisme. Donc déjà ce contexte, il est spécifique, et effectivement, comme le souligne François Bouc, on découvre d'un seul coup une scène où les acteurs peuvent avoir déjà eu des expériences communes dans le cadre de procès terroriste, et tout ça se met en marche dans un rituel qui est quand même extrêmement pesant, et on l'a vu notamment par rapport à ces questions entre vérité souterraine, vérité, dissimulation. C'est une cour d'assises, et il a été souvent souligné par le président que il y a des mensonges. Et c'est vrai que c'est difficile à entendre, notamment pour les parties civiles, mais ces mensonges font partie de la vérité judiciaire.
Florence Thurm, le poids de dire on fait un procès pour l'histoire, on l'aborde comment justement ? Parce que ça n'est sûrement pas la même chose que d'aborder un procès, aussi important soit-il d'ailleurs, qui n'a pas ce surplomb de l'histoire dans le viseur.
Alors, on l'aborde comment ? D'abord, on peut chercher pourquoi c'est un procès pour l'histoire. Et la première chose à se dire aussi, c'est que ce procès a été filmé. C'est le premier procès terroriste à avoir été filmé en France.
C'est le 14e procès filmé en France depuis 1985, oui. Mais les autres, c'était des procès de la Seconde Guerre mondiale en particulier.
Voilà, premier procès terroriste, ce qui fait que ça donnait d'ailleurs une dimension assez intéressante tout de suite, parce que la salle d'audience elle-même, étant trop petite pour accueillir tout le monde, nous pouvions aller dans une salle annexe, je dis nous, c'est-à-dire le journaliste, mais aussi les parties civiles, voire certains avocats qui venaient assister sans avoir à prendre la parole, et on pouvait également s'installer dans l'auditorium. L'auditorium, pour moi, ça a été vraiment un objet de curiosité au départ, en me disant je m'installe dans cet auditorium, je suis assise comme au cinéma, face à un grand écran. Je suis là à écouter les victimes. Au début, il y a eu un phénomène un peu de dissociation ou de distanciation, et puis très vite, en étant assise dans cet auditorium, j'ai eu un autre regard. Je suis allée aussi dans la salle ordinaire, la salle principale, mais il y a eu un autre regard qui fait que la caméra se fixant sur la personne qui parlait. Il faut imaginer que quand vous êtes dans la salle d'audience, les personnes qui s'avancent à la barre, les témoins, les victimes, les avocats qui s'avancent à la barre, vous les voyez de dos. Et là, tout d'un coup, vous les voyez de face. Et j'imagine que c'est... De face avec un masque, parce que ce procès, et ça aussi, c'est quelque chose qui entrera dans l'histoire. D'ailleurs, au passage, je précise que les images filmées de ce procès ne seront pas visibles dans 50 ans, comme on l'a entendu dire, ces images seront accessibles une fois toute la procédure purgée, c'est-à-dire une fois qu'il y aura eu un procès en appel, une fois qu'il y aura eu une éventuelle cassation, on pourra accéder à ces images pour les exploiter, ce sera autre chose. Et donc, c'est le premier acte de ce procès, c'est le procès filmé qui a donné quand même une dimension supplémentaire à l'ensemble de cette scène judiciaire.
François Bouc, vous dessinez et vous dites ça n'est pas la même chose qu'une prise de vue, ce que je fais, parce que vous pouvez donner votre interprétation dans le dessin, vous pouvez dans le même dessin mettre 3 ou 4 séquences que vous rajoutez dans ce propre dessin. C'est ce que vous avez fait tout au long de ces séances pour les dessins que vous publiez dans Charlie Hebdo. Et cela donc doit avoir une importance dans un procès qui lui est filmé justement.
Oui, bien sûr. C'est le lieu, en tout cas pour les dessinateurs, de l'interprétation. L'interprétation de ce qu'on voit. Et je me suis même permis, parce que la bande dessinée vous donne des vertus particulières, notamment la vertu de pouvoir déplacer votre caméra, si on peut parler de l'œil comme une caméra, de déplacer la caméra dans le lieu, dans l'espace. Donc parfois j'ai fait des plans qui étaient comme si c'était à vue d'oiseau, et pour découvrir la totalité de l'espace. Oui. Mais il y a un truc qui est très intéressant aussi avec le dessin, c'est que, bien sûr, surtout avec les masques cette année, alors que je redoutais cette expérience avec les masques, parce que, bien sûr, pour un dessinateur, voir les nez, les bouches, comment bougent, c'est extrêmement important. Mais au fond, c'était intéressant parce qu'on pouvait dessiner la globalité de la personne. Et donc s'attacher à la manière qu'avait la personne de tenir ses mains. Et là, on entrait dans une autre communication, la communication non-verbale. C'est-à-dire que c'est celle-là, en fait, que j'ai essayé de traiter le mieux possible, ce que disaient les corps. Les corps de ceux qui se présentaient à la barre, les corps des avocats, les corps des juges, des accusés. Et tout ça, ça faisait une espèce de carnaval de mouvement, mais en même temps aussi d'expression tantôt grotesque, tantôt tragique, tantôt qui était finalement toute la partition de ce procès.
Alors évidemment, une autre particularité de ce procès, Antoine Mégis, c'est qu'il a été interrompu pour maladie. C'était Aliriza Polat qui était donc malade pendant le cœur de ce procès, mais aussi il a dû prendre en compte ce qui se passait en dehors de la salle d'audience, en particulier la décapitation de Samuel Paty. Et tout cela entrait dans ce lieu qui théoriquement se voudrait, mais qui ne l'est jamais, mais se voudrait une sorte de cocon dans lequel la justice peut se rendre sereinement. Antoine Mégis.
Et effectivement, ce procès historique, donc comme l'a expliqué Florence Turm dans sa conception.
Vous dites dans un article que vous avez publié et qui sera publié sur le site d'AOC, je crois, demain matin, avec Denis Salas et Virginie Sansico, c'est historique par ordonnance, dites-vous.
Oui, alors c'est historique parce que en fait il nous a raconté l'histoire du moment que l'on vit, qui est assez particulier entre urgence sanitaire, urgence terroriste. L'ordonnance, c'est bien sûr cet épisode qui a alimenté tout de même des mobilisations au sein des autorités judiciaires. L'ordonnance donnant la possibilité de terminer les plaidoiries malgré la maladie ou en tout cas l'absence peut-être du principal accusé qui aurait été présent en visio.
Et le président qui a refusé cette visioconférence en particulier.
Voilà, après un débat contradictoire au sein même entre les avocats de la défense, des parties civiles, les avocats généraux, avec... Il faut le dire aussi, on a parlé de la place des victimes, on peut parler aussi de la place des avocats, avocats de la défense, avocats des parties civiles. Leurs relations n'ont pas toujours été dans le même sens, voire elles ont pu être assez opposées, et c'est aussi le jeu du débat contradictoire. Il n'empêche, sur cette question du rituel et du maintien en fait d'un procès qu'on qualifie plus de manière assez schématique d'équitable, l'introduction de la visio face à une urgence sanitaire par ordonnance du ministère de la Justice a posé une vraie question de l'infraction finalement du pouvoir politique en pleine audience en ce moment de justice. Donc effectivement, il y a eu des contextes qui sont venus percuter cette audience, l'urgence sanitaire, et puis vous l'avez dit, bien évidemment, des attentats terroristes qui ont été évoqués aussi dans l'audience, et je pense que ça a joué également dans la manière dont cette audience s'est déroulée, et la cour a pris la parole, il y a eu des mots autour de ces attentats, et donc on voit comment un procès raconte aussi l'histoire du moment, et l'histoire du moment que nous vivons aujourd'hui est assez singulière.
Vous avez interrogé le 13 novembre dernier Florence Tourme pour France Culture, Denis Salas, magistrat, qu'on a pu entendre ce matin dans les matins de France Culture à propos de ce procès. On l'écoute.
On peut voir dans ce procès une scène de sortie d'une violence de guerre ou d'un épisode de violence de guerre, un peu comme les commissions vérité et réconciliation qu'on a vu apparaître un peu partout dans le monde ces dernières années. Ce sont des audiences au sens de cérémonie de reconnaissance, de la reconnaissance des victimes, avec une exigence de vérité qui s'est manifestée, le droit pour les victimes de connaître la réalité des crimes, de connaître les enquêtes menées par les services secrets et la reconstitution des responsabilités par le travail de qualification juridique. Ceci étant, dans le cas de notre procès pénal, les victimes directes ou indirectes se sont emparées de la parole à travers le concept juridique de partie civile. Donc voilà, c'est une cérémonie de parole qui est surplombée par l'enregistrement filmé pour l'histoire, avec une destination d'un auditoire plus ample et une dimension plus large donnée à ces témoignages.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez le temps du débat, nous discutons du récit qui a été construit pendant le procès des attentats de janvier 2015 en compagnie de François Bouc, dessinateur qui a dessiné ces séances en compagnie de Yannick Hennel qui écrivait les articles pour le site de Charlie Hebdo, Antoine Mégy, politiste, et Florence Tourme de la rédaction de France Culture. C'est d'ailleurs une des questions, on a l'impression, mais peut-être a-t-on tort, Florence Tourme, que on se souvient plus du début que du moment où les accusés eux-mêmes ont pris la parole. Qu'en est-il justement de cela? Est-ce que c'est parce que justement la force de la parole des victimes dans la première moitié de ce procès l'a emporté sur le reste?
Oui, ça c'est une certitude absolue. Il y a une telle force, je le disais, de ces témoignages, de ces personnes individuellement, de leur comportement à la barre, que ça s'est imposé comme j'ai rarement vu dans un procès. Ça s'est imposé parce que les victimes aussi étaient nombreuses, qu'elles ont porté aussi des réflexions qui nous ont obligés, y compris nous, journalistes, à nous remettre un peu en question. On a entendu une conception de la part des victimes qui était celle de la culpabilité du survivant, qui est quelque chose qui a été très marquant dans ce procès. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire moi je suis là, mais je vis très mal le fait d'être là quand mes camarades sont morts. Et il y a eu aussi, vis-à-vis des médias, une parole forte des victimes en disant, bon, il y a eu la question des médias qui ont pu les mettre en danger au moment T où les choses se passaient parce que en dévoilant des informations que les terroristes auraient pu eux-mêmes entendre. Mais il y a eu surtout la question de laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles, une fois que nous sommes sortis de là, on n'a plus besoin de ça. Et alors, pour répondre plus directement à votre question, une fois que tout ça a été entendu, effectivement, on est passé comme sur une autre scène, comme sur un autre versant du procès, qui était celui de la parole des accusés. Mais comme nous n'avions pas les auteurs directs des attentats en face, et que parfois les liens étaient très ténus, et d'ailleurs ce qui ressort du verdict aussi, on a eu l'impression de basculer par moments dans un tribunal correctionnel avec certains accusés qui manquaient un peu d'épaisseur et puis certains points du dossier qui manquaient de lien également. Donc effectivement, oui, un petit peu comme deux scènes judiciaires avec la première qui finit par s'imposer sur l'autre, en tout cas par imprimer une image plus forte que la seconde, et la seconde, pourtant, elle était nécessaire, parce qu'il fallait s'accrocher pour se dire, voyons, est-ce qu'on a dans ce dossier des preuves et parfois, c'était des choses un petit peu techniques et moins intéressantes, moins fortes que ce qu'on a pu entendre au départ.
François Bouc, justement, sur cette disparité entre le premier récit, celui des victimes, et puis le second, celui des accusés, la façon dont ils se sont expliqués sur leur proximité ou non avec les frères Kouachi ou avec Amédi Coulibaly. Et puis ensuite, il y a eu évidemment la partie des plaidoiries. Mais sur cette partie justement des accusés, comment vous l'avez-vous traité en tant que dessinateur justement ?
D'un seul coup, on est en phase de gens qui défendent leur peau et qui vont tout utiliser pour défendre leur peau, parce que bien sûr, ils jouent leur vie là. Et on est dans un autre registre, on n'est plus du tout dans le registre précédent. On est dans un registre qui est celui de gens qui se débattent avec des situations dans lesquelles ils ont été mises, volontairement, involontairement.
Et votre collègue Yannick Hennel, l'écrivain qui écrivait les textes en même temps que vous faisiez les dessins pour Charlie Hebdo, dit à ce moment-là, l'enfer possède une dimension grotesque.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a un moment où on se dit, mais ces gens ont participé à l'élaboration de crimes importants et ils ont une sorte de désinvolture à parler d'eux-mêmes. Presque, c'était parfois un peu obscène.
Metin Karasoula, par exemple, qui était accusé justement d'avoir été au centre du trafic d'armes, qui avait permis justement, en particulier à Mehdi Coulibaly, de se fournir en armes.
Oui, c'est ça. On voit des personnages qui sont des personnages qu'on pourrait croiser dans la rue. Le type qui tient un garage avec des saloperies dans son arrière-cour, qu'il mélange dans la poubelle les papiers sur lesquels il y a des commandes d'armes, et puis mélangé avec ses paperasseries habituelles et tout ça, on voit un truc qui fait que d'un seul coup, ce qui était porté à
incandescence,
à quelque chose d'existentiel, oui, par la parole de ceux qui soit les victimes, soit les parents des victimes, d'un seul coup retombe dans une espèce de pathos, qui est le pathos de celui de tous les jours, des types qui font des bricolages pour essayer de gagner un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là.
Antoine Mégy.
Je pense que ce qui a été aussi très marquant par rapport à ces récits, récits des victimes, récits des accusés, c'est aussi le récit de l'enquête. Et c'est ce qui a concentré finalement ce deuxième temps du procès. Florence Turm parlait d'une dimension plus technique. Effectivement, on a parlé d'ADN, on a parlé d'armes, on a parlé de téléphonie. D'un seul coup, on est rentré dans une cour d'assises où la question des preuves, et c'est ce qui a posé aussi une des questions. Alors peut-être que effectivement, ce qui marque aujourd'hui, c'est vraiment cette parole des victimes. Il n'empêche, dans la construction du droit, et notamment du droit pénal antiterroriste, qui va avoir des procès de très grande ampleur par la suite, la décision qui a été prise sur l'enquête par rapport aux condamnations, elle marque tout de même une jurisprudence importante quant à la question de qui appartient à une entreprise terroriste. Oui. Et c'est toutes ces questions-là qui ont été abordées dans le deuxième temps du procès. Alors effectivement, il y avait des récits, des histoires, des micro-histoires qui racontaient des parcours biographiques individuels et qui s'étaient entrechoqués finalement. Et la question de l'enquête a été centrale parce que la question de la police, la question de personnes qui étaient absentes dans les box, a aussi, je pense, interrogé sur qu'est-ce qu'une enquête de la lutte antiterroriste et quelles sont les possibles failles de ce type d'enquête avec des moyens extrêmes, mais également une pression et une urgence politique très forte.
Oui, la pression politique était toujours présente, Florence Turm, et ça devait se sentir dans cette salle d'audience.
Alors, ce qu'on a beaucoup ressenti, et je trouve que ce qui était très bien résumé, c'est la prise de parole de la plupart des avocats de la défense. Parce que chacun avec sa ligne, chacun avec son accusé, en fait, a dit à la cour, face à face, au moment de plaider l'acquittement, parce qu'ils ont pour la plupart plaidé l'acquittement, a dit, je vous demande d'être courageux. Je vous demande, vous magistrats, de vous extraire de toute pression extérieure. Et on voyait que chez ces avocats, qui pour beaucoup sont de jeunes avocats issus de la conférence...
Oui, alors il faut préciser ensemble, effectivement, que moi j'ai découvert ça en lisant les papiers qui étaient des comptes rendus, que beaucoup des avocats de la défense étaient des avocats qu'on dirait habituellement éventuellement commis d'office, mais ça n'est pas exactement cela. Mais enfin, en tout cas, des avocats qui sont sortis de la conférence du stage, qui ont eu leur concours et qui, d'une certaine façon, en sortant de cette conférence, pour la moitié d'entre eux, se sont retrouvés sur les bancs de la défense.
Voilà, et effectivement, ils ont tous exprimé, d'abord c'était des avocats qui connaissaient extrêmement bien leur dossier, vraiment qui se sont attachés au dossier dans leur grande majorité, et qui ont eu ce message vis-à-vis des magistrats, et hier à la sortie de l'audience, ils étaient pour la plupart satisfaits, non pas satisfaits forcément des peines quand on plaide un acquittement, mais en tout cas avoir le sentiment que la justice a pris le temps d'examiner chaque dossier, a pris le temps de les voir de manière sereine.
Et de les distinguer les uns des autres.
Et de les distinguer les uns des autres avec cette fameuse qualification d'association de malfaiteurs terroristes au centre des débats, cette qualification que beaucoup d'avocats qualifient d'infraction fourre-tout parce qu'il est facile d'y faire rentrer un accusé. Et là, la Cour a vraiment pris le temps de distinguer les uns des autres en fonction de leur proximité ou non avec Koulibaly et en fonction aussi de leur degré de radicalité ou d'implication dans ce qui pouvait être une radicalité religieuse également.
Est-ce là, vous avez ressenti en tant que dessinateur, François Bouc, cette différence entre pourrait-on dire, des avocats blanchis sous le harnais qui étaient là depuis longtemps? Vous aviez pu d'ailleurs croiser au procès du Carlton Richard Malka, qui est fondé à l'époque DSK, et là, en l'occurrence, qui était le défenseur des victimes de Charlie. Et puis des avocats plus jeunes, qu'est-ce que ça changeait justement dans ce récit qui était en train de se construire devant vos yeux, François Bouc, en tant que dessinateur?
Alors c'est vrai que ce qui semblait, c'est qu'il y avait des avocats chevronnés et parfois même des avocats jeunes qui allaient leur demander des conseils pour presque parfaire leur apprentissage d'avocat. J'ai pu assister comme ça à quelques conversations comme ça de parallèles. Il y a une chose qui m'importe aussi beaucoup là-dedans, c'est le phénomène de l'irresponsabilité. Et j'arrivais pas à me défaire de l'idée de rapprocher ça avec, bien sûr, avec le terrorisme, de rapprocher ça avec des comportements de certains nazis. Des nazis qui étaient jamais responsables. Parce que ils n'avaient fait qu'un petit truc. Et que ce petit truc les laissait libres de pouvoir dire qu'ils étaient innocents. Or non, c'est une machine globale.
Denis Salas, d'ailleurs, ne dit pas que c'est la banalité du mal, comme aurait pu le dire Anna Arendt, justement, à propos des procès comme Eichmann, mais il dit que c'était la trivialité du mal.
Oui, exactement. Il y a quelque chose d'un peu vulgaire dans tout ça, d'imbécile, parfois. Parfois, presque attendrissant aussi.
Et en même temps, comme vous le disiez, pour certains de ces accusés, ils défendaient leur peau. Donc, il y avait aussi cette volonté de se défendre aussi.
Exactement. Il y a quelque chose, quand on est dessinateur comme moi et qu'on s'approche, et parfois même on a une relation avec les coupables qu'on a proches de nous, puisque nous, on a une place assez privilégiée, puisqu'on est entre les juges, la barre d'audience et les accusés. Ils finissent par être en convoitise de nos dessins. Ils regardent nos dessins et ils finissent par avoir des appréciations même sur nos dessins. Ils finissent même par nous demander s'ils peuvent avoir nos dessins. Et se tisse une relation très particulière où des accusés deviennent attendrissants au-delà de ce qu'ils ont pu faire. Et des fois, on se dit, mais leur destinée aurait pu être tout autrement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, par le fait d'être dessinateur et d'être proche d'eux, oui.
Antoine Mégy, justement, sur cette question de responsabilité, d'irresponsabilité, mais aussi de ce mélange entre avocats, disons, chevronnés, comme le disait à l'instant François Bouc, et avocats beaucoup plus jeunes qui se trouvaient dans un procès fleuve et hors normes, pourrait-on dire.
Alors, c'est toute la question de la spécialisation, en fait, de ce qu'on va appeler ces procès du terrorisme. Il y avait effectivement dans le rang des avocats, à la fois des avocats des parties civiles, mais aussi des avocats de la défense, des personnes qui avaient déjà participé à des procès, notamment, je pense au procès des attentats de Toulouse et Montauban, qu'on a appelé le procès Mera il y a quelques années.
Et finalement, c'est Abdelkader Mera, en l'occurrence.
Abdelkader Mera et de Fethi Issa Malki qui ont eu deux procès par la suite. C'est donc en fait la réalité d'avocats qui vont par la force des choses, par une politique pénale qui conduit à de plus en plus de procès, se spécialiser. Et ce croisement des générations, il s'est vu aussi dans la forte place des femmes dans les rangs des avocats de la défense et des parties civiles. C'est aussi une photographie un peu des évolutions profondes de la profession d'avocat. Profession d'avocat qui a été également présente en dehors de la salle lorsque justement il y a eu ce débat sur l'ordonnance et qu'il y a eu des manifestations de la part des avocats pour réclamer finalement la présence et des accusés
et d'interdire la visioconférence
des assises. Et finalement s'opposer non pas à la visioconférence. Il faut bien comprendre que la visioconférence, elle existe et d'ailleurs c'est aussi un objet très intéressant à prendre en compte dans ces procès. C'est la visioconférence qui permet des témoignages, notamment des enquêteurs, des services de renseignement qui viennent témoigner sous couvert d'anonymat des contextes djihadistes, soit en Syrie, soit en France. Donc la visioconférence, elle existe en cour d'assises. Là, la question, c'était la défense, les droits de la défense dans un procès historique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces avocats, vous avez parlé de génération. Ces avocats, ils ont aussi des stratégies très différentes parce que finalement, ils ne représentent pas les mêmes parties au procès. Et il y a eu ce débat des avocats, des parties civiles et de leur place. Et c'est certainement l'un des grands défis qui va se poser pour le procès des attentats du 13 novembre, parce que le nombre de parties civiles va être très important, le nombre d'avocats va être très important. Et il va y avoir vraiment à interroger cet équilibre des paroles dans des procès qui peuvent prendre à la fois le moment des victimes, mais aussi de l'enquête et de la responsabilité, on y vient, des accusés.
Florence Thaume, on arrive bientôt au terme de cette discussion. Il y a eu des mots prononcés très importants. On a vu effectivement la plaidoirie de Richard Malka, on a eu des expressions très fortes de Maître Klugman qui défendait les victimes de l'hypercachère. On a eu aussi du côté de la défense Maître David Appelbaum qui dit « il ne faut pas trop attendre d'un procès ». Disait-il, il n'y a pas de coupable, peut-être parfois, et c'est cela qui était effectivement peut-être, disons, en prévision, assez décevant potentiellement pour un procès que l'on voulait historique.
Alors, assez décevant, en fait, un procès, le procès fait avec la matière qu'il a.
La matière,
c'est les accusés.
Quand on annonce un procès historique et qu'effectivement, on se dit il n'y aura peut-être pas autant d'accusés qui seront condamnés, eh bien, pour certains, ça pourrait paraître comme décevant, mais ça n'est pas décevant, y compris d'ailleurs pour les victimes elles-mêmes, qui, Ségolène Vincent ou Hélène Honoré, sont venues parler aux accusés en leur disant « nous ne voulons pas une justice de vengeance », par exemple.
Et ça, c'était un moment vraiment extraordinaire dans la salle, quand ces deux jeunes femmes s'avancent vers Miguel Martinez notamment et Willy Prévost, qui sont deux des accusés. La cour est déjà partie pour délibérer, et là, elles vont leur dire, donc Ségolène Vincent, la survivante, Hélène Honoré, qui est la fille du dessinateur qui a été tué à Charlie Hebdo, elles vont leur dire, on ne veut pas une justice de vengeance. Et en fait, ça donne toute la mesure de ce que on pourrait penser être une déception si jamais on ne condamne pas, et c'était tout le défi de ce procès aussi, de faire que la cour ne donne pas en pâture des peines ou des accusés pour combler un vide qui pourrait plus s'installer chez les victimes. Et je crois que ça a été le grand défi de ce procès aussi, et c'est très important que justement la décision qui a été rendue soit aussi nuancée.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Florence Thaume, qui avait suivi pour France Culture l'ensemble de ce procès, donc des attentats de janvier 2015. Merci à vous, Antoine Mégy. On attendra donc l'article apparaître dans AOC demain avec Denis Salas et Virginie Sansico qui résument votre vision justement de ce qu'ont été ce procès. Et merci à vous, François Bouc. On attendra pour le 21 janvier, je crois, la publication du livre que vous allez publier avec Yannick Kennel, donc tiré de ses chroniques. chronique que vous avez publiée pour Charlie Hebdo, et puis votre livre sorti avec Jérôme Charine, signé donc de vous et de Jérôme Charine, New York Cannibals, est publié depuis la rentrée de septembre chez Le Lombard. Merci d'être venu ici. C'était Le Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Hugo Boursier, Rémi Baye, Iman Gilles, Swad Boukorza était avec nous à la technique et Asia Ralid à la réalisation. Demain, ça sera notre conversation mondiale consacrée au rôle des émotions dans la manière dont nous suivons la crise sanitaire avec le président du Parti Socialiste Belge Paul Magnette et le sociologue de l'Université de Lausanne, la sociologue Laurence Kaufmann. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte dans Affaires culturelles avec Rebecca D'Outremer. Il est 19h, passé d'une poignée de secondes. Les titres de l'actualité avec vous, Arnaud Rozac, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous.